Je vous propose de vous asseoir afin que nous puissions reprendre. Et comme il est déjà tard, je présenterai rapidement Bernard Vouilloux, qui est professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, et qui est spécialiste des rapports entre la littérature et les arts visuels. Donc, ça tombe bien dans notre sujet. Il a publié évidemment beaucoup de livres sur la peinture, sur Julien Gracq, sur les Goncourt. Mais la raison pour laquelle je l'ai invité cette année, c'est à cause de Champfleury. Vous avez peut-être remarqué que c'est la première fois aujourd'hui que je ne parle pas de Champfleury durant mon cours. Au fond, ce cours aurait pu être un cours sur Champfleury. J'aurais dû mettre à l'affiche non pas Baudelaire, mais Champfleury. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Baudelaire. Bon, par tradition. Champfleury est sans doute plus central puisqu'il s'est intéressé à tous ces objets que nous avons vus jusqu'ici, la caricature, il s'est intéressé aux faïences, il s'est intéressé aux chats, il s'est intéressé aux chiffonniers, puisqu'il a écrit un roman de la chiffonnerie. Autrement dit, nous le retrouvons vraiment à tous les coins de Borne. Et il s'imposait donc d'inviter quelqu'un pour parler du chiffonnier. Et Bernard Vouilloux a organisé il y a quelques années un colloque sur Champfleury. Enfin, c'est Champfleury, ça commence par CH. Hein. Comme tous les. Vous avez peut-être remarqué que tout commence par CH dans ce cours, hein, qu'il s'agisse des charognes, des chats, des chiens, des chiffonniers, ou que sais-je encore. Donc. Champfleury avait nécessairement sa place et je vous cède la parole sous le titre « Champfleury, promoteur du sans-art ».
Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité et je remercie notre auditoire d'avoir bravé les torrents de la boue parisienne pour à nouveau entendre parler toujours et encore hein, de cette boue. Je vous ai apporté deux cadeaux, deux images que je n'ai pas vues, si je me souviens bien, passer dans les différents diaporamas. Il y a tout d'abord cette merveilleuse aquarelle de Manet, avec en souscription une citation tirée de Champfleury, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Cette aquarelle n'est pas datée, du moins n'en ai-je pas trouvé la date. Elle est antérieure à 1883, date à laquelle meurt Manet, date à laquelle le fameux préfet Poubelle édite son décret, mais je ne crois pas qu'il y ait un rapport de cause à effet entre les deux. Et puis alors, la deuxième image, voilà, c'est celle-ci, elle est due à Charles Nègre, et je pense, n'est-ce pas, qu'elle a tout pour vous plaire. Elle a tout pour vous plaire. Nous sommes en 1850. Vous l'avez montré ?
Je la commenterai dans 15 jours. Ah.
Bon.
Mais il y a une phrase que même sur cette photographie, je suis en
conversation avec les. Avec
Alors, sur le site des photographies de la RMN, elle est dans le mauvais sens. Elle est prise par Charles Nègre en 1850, donc au bas de l'immeuble qu'il habite, qui est Bourbon, à Paris. Je crois que ni la borne ni le banc n'existent aujourd'hui. Le chiffonnier est immobile. En ces premiers temps de la photographie, les temps de pose sont extrêmement longs. On ne peut pas prendre de sujet en mouvement. Et il y a une semaine, vous avez pu voir une autre photographie de Charles Nègre prise dans cette même rue, celle qui nous montre un cheval mort. Non, c'était il y a 15 jours. Alors, il me faut tout d'abord expliquer le titre que j'ai choisi, Champfleury, promoteur du sans-art. L'expression « un art sans-art » est employée par lui dans l'histoire de la caricature moderne en 1865, et il faut entendre par là un art qui s'ignore comme tel, inconscient de lui-même, et en clair, pour Champfleury, un art du peuple, pour le peuple. Ailleurs, il parle d'un art barbare, c'est dans l'histoire de la caricature antique, paru la même année, et il faut entendre cette fois-ci qu'il s'agit d'un art qui ne parle pas, en quelque sorte, hein, la langue dominante, la koiné, en quelque sorte, c'est-à-dire la langue de l'art consacré. Il faut rappeler que la caricature, au XIXe siècle, chez Champfleury et chez d'autres encore, est comprise en un sens beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Elle englobe les formes du comique, du satirique, du grotesque, et chez Champfleury, et c'est cela qui est intéressant, elle s'étend même aux, je cite, « gaies peintures de mœurs, scènes familières des basses classes, incidents burlesques fréquents dans les divertissements de petites gens ». Or, aux yeux de Champfleury, c'est parce que cet art dit mineur est ignorant de ce qu'il est qu'il diffère de l'art des artistes et qu'il en diffère en bien. Ce que Champfleury condamne, en effet, c'est la prétention à l'art. Les philosophes analytiques parlent de candidature à l'art. Et par là, il s'écarte de toutes les positions esthètes, depuis l'art pour l'art de Théophile Gautier jusqu'à l'écriture artiste des Goncourt, auquel il réserve beaucoup de flèches empoisonnées. Et par là s'explique aussi sa défiance à l'égard de l'esthétique, comprise comme science du beau. Science qui plus est, c'est une circonstance aggravante, assujetti à la fumeuse théorie spéculative allemande. C'est ce qu'il laisse entendre dans quelques-uns des volumes de son Histoire de la caricature. Et en dépit de l'admiration qu'il porte à son ami Baudelaire, il considère ses propositions avec circonspection. Alors, trois courts textes, trois citations, toutes trois relatives à la chiffonnerie, exemplifient la position singulière de Champfleury. La première, je la tire du recueil Les Excentriques, du conte L'homme aux figures de cire. Alors, là, il s'est passé une chose très étrange. C'est que la citation qui apparaît à l'écran n'est pas celle que j'avais retenue. Bon, c'est très, très curieux. Il y a eu un tour de passe-passe au moment du transfert, sans doute. Je résume. Ce que nous dit dans ces quelques lignes Champfleury, c'est qu'il y a une beauté de la loque. La deuxième citation, bon, j'espère que cette fois-ci je ne serai pas trahi par le médium, je la tire de l'hôtel des commissaires priseurs, et c'est exactement le même phénomène qui s'est produit. Donc, je résume le propos. Il ressort de cette citation, j'espère que tous mes textes ne vont pas ainsi passer à la trappe, il ressort de ce propos que le beau est indissociable du laid. J'aborde avec quelque angoisse la troisième citation, et non, c'est toujours, toujours le même phénomène qui s'est produit. Donc, eh bien, c'est dans l'un des contes d'automne, volume de 1854, conte intitulé « Le comédien Trianon », il est question de ce langage que les femmes qui fréquentent les milieux du théâtre ont pris des poètes et des peintres, et qu'elle répète avec une certitude renversante. Bon, ce n'est pas cet éternel procès sur le psittacisme féminin hein, qui me retient ici, mais c'est plutôt ce qui suit, à savoir un éloge du langage simple et direct du chiffonnier. Alors, la place de Champfleury dans le programme de ce cours ne tient pas seulement à l'amitié qu'il a liée à Baudelaire en leurs années de bohème, au temps du salut public que tous deux coéditent avec Charles Toubin. Et là, j'avais retenu une citation qui, par miracle, est présente au rendez-vous. Alors, vous avez là un bel exemple de la prose emportée, furibonde, et nous dirions aujourd'hui non exempte de quelques relents populistes, où l'on s'en prend aux foutriqués, aux ventrus et aux bornes. Et c'est le dernier paragraphe qui m'intéresse. Il n'y a plus de foutriqués, il n'y a plus de ventrus, il n'y a plus de bornes que celles des rues. Quelques années plus tard, les deux amis sont représentés dans le tableau. C'est très étrange. Dans le tableau de Courbet, l'atelier du peintre, Baudelaire est à droite, assis sur une table, la tête plongée dans un livre, et Champfleury un peu plus loin, sur une chaise. Il se plaindra d'avoir été représenté avec une tête de général jésuite. Alors, les quelques citations par lesquelles j'ai commencé montrent que le chiffonnier est, pour Champfleury, plus et autre chose qu'un type parisien. C'est un type symbolique. Et c'est là que nous retrouvons le motif central du programme de cette année. La chiffonnerie comme activité de récupération ou de recyclage dans l'économie réelle, mais aussi et surtout dans l'économie symbolique, celle-ci consistant dans le recyclage de ces objets symboliques, donc, que sont les textes ou les artefacts à finalité non utilitaire ou du moins non exclusivement utilitaire. Et cette extension figurée, vous le savez, il en était largement question, s'effectue très tôt, ainsi chez Étienne de Jouy, dans le testament de l'ermite, où il est fait référence au chiffonnier de la littérature. Je construirai donc mon propos sur la distinction entre le chiffonnier littéral et le chiffonnier figural. Donc je m'attache d'abord au chiffonnier comme personnage. Et avant d'en venir à ce passage des excentriques, oui, qui est bien là, je préciserai que si l'on accepte la mascarade de la vie parisienne, publiée en 1859, qui est le grand roman de la chiffonnerie, au moins dans sa première moitié, et sur lequel, bien sûr, je m'arrêterai dans un moment, les références au type parisien du chiffonnier sont somme toute assez peu nombreuses et discrètes dans l'œuvre de Champfleury. On peut les répartir entre deux grands thèmes, la vie des objets et la vie des chiffonniers. Comme beaucoup de ses contemporains, Champfleury semble fasciné par les deux cycles par lesquels passent les objets. Le cycle premier est clairement un cycle organique, tout s'use et se dégrade, mais l'intervention du chiffonnier amorce le cycle d'une récupération et, pour un peu, d'une rédemption. Pour l'usager, si l'on voit les choses de son point de vue, un objet, mais il faudrait décomposer le mot, un objet, rappelant ainsi que l'objet est toujours finalisé, c'est ce qui vient s'objecter au regard. L'objet, donc, lorsqu'on en a usé et qu'on l'a usé, est fini. Et un objet fini, ce n'est plus qu'une pauvre chose. C'est rien. C'est une rien, comme on disait dans l'ancienne langue, en jouant sur l'étymologie, rien, rem, accusatif de res, la chose. Et c'est de cette chose, sans plus de finalité utilitaire, que s'empare le chiffonnier pour la réinsérer dans le circuit des objets ou des matières. Ainsi, dans la vie d'un vêtement, le chiffonnier est celui qui arrive au bout de la chaîne du premier cycle. Dans l'une des nouvelles donc, du recueil les excentriques, Bugjargal, le héros qui porte ce nom venu de Hugo, est un croque-mort, ou si vous préférez, un employé des pompes funèbres. Et l'une de ses singularités réside dans le soin qu'il porte à sa tenue. Ses vêtements le distinguent ainsi de ses confrères. D'ordinaire, ils sont vêtus de noir, mais on ne sait pourquoi, leurs habits de drap deviennent tout d'un coup du lefting, c'est une étoffe de laine rase, brillante, et de noir passe à un ton verdâtre et malheureux qui chagrine la vue. Leurs crêpes sont tout de suite loques et plus d'un chiffonnier en ferait fi. L'hôtel des commissaires priseurs, publié en 1867, fait allusion à l'une des matières collectées par les chiffonniers, le métal, et sont ainsi comparées dans ce passage les activités des chiffonniers, ce sont des Auvergnats, du faubourg Saint-Antoine, et des chiffonniers du faubourg Saint-Marceau, aujourd'hui Saint-Marcel. De même que les chiffonniers du faubourg Saint-Marceau ramassent les os, les débris de papier, de robes, de vieux chapeaux, les Auvergnats de la rue de Lappe recueillent les rognures de ferraille, de zinc et de fer blanc. Là s'opère la fonte du vrai or des anciens cadres, des anciens meubles, des anciennes pendules. Là se démantèle une machine à vapeur usée en même temps qu'une commode Louis XV. Il faudra se souvenir de cette citation un peu plus tard. En marge de ces références, qui sont tout à fait transparentes, il faudrait faire un sort à des notations récurrentes où nulle allusion n'est faite au chiffonnier et où le chiffon équivaut à ce qu'il y a de plus infime. Un ami du narrateur des propos amoureux, qui date de 1857, raconte comment un de ses amis le sauva de la ruine en l'aidant à vendre tout son mobilier. Un matin, il arriva avec des marchands de meubles et traita sans pitié de tout le mobilier. Il ne laissa pas un chiffon. Mariette, dans Les aventures de Mademoiselle Mariette, déclare pouvoir s'habiller avec un chiffon. Alors, à vrai dire, le propos ne manque pas de sel si l'on se souvient que le modèle de ce personnage passe pour avoir été une professionnelle du déshabillage, Marie-Christine Roux, puisqu'il s'agit d'elle, donc on vérifie que les chiffons sont à ses pieds, a posé entre autres pour Ingres, pour Nadar et pour Jérôme, c'est cette photographie qui a servi de patron, en quelque sorte, à la pose de Frinet dans le fameux tableau de Jérôme. Et cette jeune personne, qui n'a pas froid, est traditionnellement considérée aussi comme un modèle de la musette des scènes de la vie de Bohème. Mais il arrive que le chiffon renvoie à un état du papier, ce matériau de l'écrivain, sans qu'il soit précisé si le papier en question a été fabriqué à partir de chiffons ou de pâtes de bois. Le personnage principal des Demoiselles Tourangeau, un roman de 1864, relevant d'une longue maladie, retrouve avec plaisir ses manuscrits et il s'adresse ainsi à sa sœur. C'est un plaisir que de voir tous ces chiffons de papier qui n'ont l'air de rien, n'est-ce pas, Christine, et qui représentent l'avenir, la gloire et la fortune. Le contraste entre la matière et sa finalité, et d'autant plus fort que la finalité peut être tout autre, des plus prosaïques, simplement bureaucratiques. Dans Monsieur de Boisdiver, roman antérieur qui est de 1857, il est question d'un employé modèle dont le bureau est remarquable, notamment par, je cite, « l'absence de ces petits chiffons de papier jetés en boule qui caractérisent l'employé désordonné ». Alors, avec ces chiffons de papier, il faudrait s'intéresser plus largement à tout ce qui, dans les textes de l'époque, comme dans les images, a chu sur le sol. Et on pourrait ici tenter une interprétation littéraliste ou réaliste de la Geworfenheit chez Heidegger, dans Sein und Zeit. Vous voyez, nous sommes vraiment très très loin. Ce que Heidegger appelle donc l'être jeté. C'est la condition du Dasein, de l'être-là humain. Alors, la première mention qui est faite des chiffonniers dans l'œuvre de Champfleury a trait à leur mode de vie. On la trouve dans Chien Caillou, nouvelle publiée en 1847 dans les Fantaisies d'hiver et qui a beaucoup fait par la suite pour la célébrité de l'écrivain. Les deux sœurs, Nini et Antoinette, qui habitent dans le même immeuble que Chien Caillou, personnage inspiré du graveur Rodolphe Brédin, une figure de la bohème parisienne, et qui se lie à celui-ci, ont un père qui fait le chiffon. Amourette, qui ne veut pas être à la charge de sa sœur, lui déclare « Demain, je veux retourner chiffonner avec papa. Il me battra, ça m'est égal, au moins tu ne seras plus obligé d'aller avec ton vieux. » Ton vieux, c'est Chien Caillou. Réponse de Nini, « Tu sais bien que nous sommes trop grandes pour faire le chiffon, que le métier ne va pas et que si papa nous a renvoyés, c'est qu'il ne pouvait plus nous nourrir. » Alors, l'accent est mis évidemment sur le peu de rapport de cette activité, mais ce que je trouve intéressant, c'est que Champfleury met en évidence les mots et les expressions qui caractérisent le milieu des deux sœurs. Et cet usage des sociolectes, c'est l'une des leçons qu'il a retenues de Balzac. Les amoureux de Sainte-Périne, en 1859, fait rapidement allusion aux chiffonniers du quartier Saint-Marceau, ou plus exactement à leurs enfants, et c'est pour poser un paradoxe en forme de comble rhétorique qui vient de passer à la guillotine, vous le voyez. Je vous le lis, j'avais pris mes précautions. De même qu'on rencontre au fond d'atelier de chiffonniers du faubourg Saint-Marceau des enfants rieuses aux fraîches couleurs, de même roses, etc. Alors, on comprend que pour la plupart des contemporains de Champfleury, les chiffonniers forment une catégorie complètement déconsidérée. Et elle l'est incontestablement, aux yeux de Massabrach, l'un des personnages de la comédie académique de 1867. Tartarin avant la lettre, Massabrach dit au père Supplicie ce qu'il pense d'une relation qui leur est commune. Alors, il faudrait citer tout entier ce passage qui a le bon goût d'être là dans son intégralité, parce qu'il est tout à fait dans la veine comique cultivée par Champfleury dans toute son œuvre romanesque, mais je m'en tiendrai au dernier paragraphe. Négogus, donc la personne dont il est question, devenait un payero, un goulamas et un rascasso, c'est-à-dire un chiffonnier, un homme sans ordre, un teigneux. À la différence de la plupart de ses contemporains, Champfleury n'a jamais regarder les chiffonniers comme appartenant aux classes dangereuses. Vous l'avez peut-être compris, Champfleury est un gentil. Son univers mental, c'est celui de la bonhomie provinciale et non pas du sarcasme parisien. Et la mascarade de la vie parisienne, sur laquelle je vais m'arrêter maintenant, se termine par un défilé, en quelque sorte, des masques de Paris, qui est une véritable diatribe, une véritable mercuriale contre les vices de la capitale et du reste, les deux héros, Claire et le poète qui l'a sauvé du ruisseau, terminent à la campagne. Alors, la mascarade de la vie parisienne, c'est à la fois un roman picaresque et un roman panoramique. On y suit les aventures de Claire, élevée dans le milieu des petits artisans du quartier Saint-Marceau. Claire, qui s'est amourachée d'un joli garçon, prénommé Auguste, et c'est pourquoi elle fuit la maison paternelle et se trouve ainsi embarquée dans une série de péripéties qui l'amène successivement dans le quartier latin, où elle passe d'une chambre d'étudiant à l'autre, à l'hôpital de la Salpêtrière, dans les deux maisons d'une aventurière qui organise des tables de jeu clandestines, dans un cercle de spirites, escrocs eux aussi, comme il se doit, chez un vieux naturaliste un peu toqué, qui brigue l'Académie des sciences, et derrière lequel, je me demande d'ailleurs, puisque lui dissèque des cygnes et non des chats, s'il n'y a pas comme un souvenir de Claude Bernard, chez une fabricante de planches coloriées, dans un café-théâtre de seconde zone, puis au théâtre de l'ambigu-comique, où, par ses caprices et son comportement fantasque, elle devient la coqueluche du public. Elle finit sur le trottoir, où, comme on dit à l'époque, elle tombe dans le ruisseau, mais, je vous l'ai dit, il y a un happy end. Le poète qui s'était pris d'elle vient la sauver du triste destin qui semblait se dessiner. L'action débute rue Mouffetard. Alors, avant haussmannisation du quartier, la rue Mouffetard était trois fois plus longue qu'aujourd'hui. Elle mesurait 1,5 km et elle s'étendait à travers ce qui était alors le 12e arrondissement. Elle traversait la Bièvre à la hauteur de Saint-Médard. J'ai choisi une photographie de la toute fin du siècle, donc après intervention du baron Haussmann. C'est une photographie d'Adjé. Et sur le bord de la Bièvre, et c'est cela qui m'intéresse, étaient implantées toutes sortes de petites industries, blanchisseries, Auguste est du reste le fils d'une blanchisseuse, triperies et surtout tanneries, comme on le voit sur cette photographie de Charles Marville. Toute l'industrie qui faisait de ce petit affluent de la Seine un véritable cloaque et l'un des lieux les plus insalubres de Paris. Évoquant la rue Mouffetard, Champfleury nomme les maîtres de la littérature panoramique. Je lis le philosophe Mercier, qui avait rêvé quelques timides percées au cœur de Paris, étonné de retrouver une capitale toute nouvelle, irait se retremper dans le faubourg Saint-Marceau, chanté par son élève rétif de la Bretonne. Le père de Claire, nommé couturier, est apprêteur. Il prépare les pots. Les pots dont ont besoin les tanneurs. Mais il a une activité inavouable, car elle lui vaudrait la vindicte de beaucoup. Il prépare aussi des pots de chiens et surtout de chats. Et à cette fin, il a commis une bande d'une dizaine de chiffonniers chargés donc d'assassiner à travers les rues de Paris ces délicates créatures. Alors, les premiers chapitres de la mascarade nous valent de nombreux développements sur la chiffonnerie qu'il faudrait tous citer. Je m'en tiendrai seulement à quelques-uns. Il a été fait allusion, lors de séances précédentes, à la comparaison de la chiffonnerie avec l'alchimie. Elle intervient ici dans les toutes premières pages. Les modernes alchimistes de nos jours, qui ont découvert mieux que l'or, c'est-à-dire la transformation de tout produit inutile en apparence, ont fait jouer au chat mort un rôle immense dans la pelleterie. Et Champfleury, dans toute cette première partie, n'hésite pas à fournir des informations de type encyclopédique, un peu à la façon de Balzac, comme celle-ci, qui vous rappellera beaucoup de souvenirs, car vous avez maintenant une mémoire de chiffonnier. Sa peau, il s'agit de la peau du chat, bien sûr, apprêtée convenablement et revendue plus de 6 fois qu'elle n'a coûté aux fabricants de joujoux, aux fourreurs qui en font des manchons et aux chapeliers qui en couvrent des casquettes. Qu'il soit joujoux, manchon ou casquette, le chat mort n'a pas encore terminé ses métamorphoses. Ses os servent à faire du noir animal. Sa graisse est employée par les émailleurs et fabricants d'yeux d'émail. Enfin, la chair est enterrée dans un trou où elle se corrompt et donne naissance à des asticots qui se vendent aux pêcheurs à la ligne. Particulièrement prisé de l'apprêteur et de sa bande de chiffonniers sont les angoras. Mais les angoras, ce sont des chats de bonne maison et en tant que tels, ils ne sortent pas de celle-ci, ce qui fait évidemment flamber le prix de la peau d'angora sur le marché. Couturier, qui est un brave homme, rétribue chichement les services de ses sbires, mais il n'hésite pas à leur payer le coup, ce qui nous vaut un portrait en pied du chiffonnier muni de tous ses attributs. Et les étrangleurs du faubourg Saint-Marceau, qui rôdent dans tous les quartiers de Paris, une lanterne sourde à la main, un crochet de l'autre, assénant avec adresse un coup de crochet sur le crâne des chats vagabonds pour terminer par le coup de pouce de la faim, ces étrangleurs à 3 sous par tête parlent encore de la générosité de couturier. Claire, qui aide son père dans sa coupable activité, met beaucoup de cœur à dépouiller les chats et cette ardeur au travail lui vaut l'affection des chiffonniers. Outre Claire et son père, il y a un troisième personnage. Un personnage dont le profil s'avère pour nous d'une importance décisive. Il s'agit de Topino, oncle maternel de Claire. C'est un chiffonnier, mais un chiffonnier qui pourrait concourir à l'un de ces prix de vertu que le siècle affectionnait. Alors, non seulement il est sobre et se montre rigoureux, méthodique, ordonné hein, dans l'exercice de sa profession, non seulement il est bon et généreux, mais c'est une manière de collectionneur doublée d'un pédagogue philanthrope. Il a en effet une passion, ce sont les affiches. De son appartement, il habite rue du Petit Banquier, qui est devenue en 1867 la rue Watteau, il a fait un véritable musée. Hein, le mot apparaît dans le texte. Et cette passion des affiches, il l'a fait partager aux enfants du voisinage à qui il explique les images. La citation que j'avais retenue s'est déplacée sur un autre endroit du texte, donc je la laisse tomber, mais elle ne dit pas plus, mais bien mieux, ce que j'ai résumé en quelques mots. Alors, il faut rappeler ici l'intérêt de Champfleury pour les images, bien sûr, et un intérêt qui n'est pas seulement celui d'un historien doublé d'un collectionneur, c'est aussi celui d'un pédagogue. Il a exposé dans le numéro spécimen de l'Imagerie nouvelle, publié en 1870, et puis il a développé dans son livre « Les enfants, éducation, instruction, ce qu'il faut faire savoir aux femmes, aux hommes », ses vues pédagogique sur l'imagerie pour l'enfance, dont Annie Renoncia a fait apparaître l'impact sur les programmes scolaires de la Troisième République. C'est à Topino, donc, que Claire doit son peu d'instruction. Cet oncle, hein, dont nous apprenons dans les premières pages du roman, qu'il, je cite, « regardait toute journée mal employée, celle où il n'avait pas déchiffré quelque imprimé ». Alors, on trouve encore bien des choses sur les chiffonniers, dans la mascarade. Par exemple, l'épreuve à laquelle Couturier est soumis pour se faire agréer chiffonnier par les membres du syndic nous fait apparaître les chiffonniers comme structurés, mais structurés en corporation, en guilde, sur l'ancien modèle. Et c'est bien d'ailleurs ce que leur reprochera Marx, hein, de ne pas avoir pris conscience d'eux-mêmes en tant que classe. Ce n'est pour Marx qu'un ramassis de pauvres airs. Et ce ne sera pas la position, hein, il en a été largement question la semaine dernière, de Walter Benjamin. Je ferai l'hypothèse que Benjamin, peut-être s'est montré ici plus messianique, hein, que marxiste, et qu'en tous les cas, il a pu, en lecteur et en admirateur de Brecht, penser à l'opéra des Gueux, au Rex Progress, hein, d'où cette tentative de rédimer, en quelque sorte, les chiffonniers en les mettant à l'avant-garde de la Révolution. Alors, on rencontre aussi dans la mascarade une chiffonnière d'âge vénérable, la Gabard, hein, qui ne crache pas sur la bouteille, elle est tout à fait conforme au portrait type, et dont les manières, comme le costume, et là c'est un peu plus original, font un personnage que nous dirions aujourd'hui transgenre. Alors, avec Topino, s'est profilé un type de chiffonnier qui est propre à l'œuvre de Champfleury, le chiffonnier qui ne fait pas que collecter, mais qui collectionne. Et cet avatar nous invite à nous interroger sur le lien entre la collecte et la collection. C'est donc la figure du collectionneur comme chiffonnier qui me retiendra, et pour finir, celle de son alter ego, l'écrivain chiffonnier, mais j'évoquerai pour commencer un troisième état transformé, hein, de la chiffonnerie. Il concerne un art auquel Champfleury s'est beaucoup intéressé, sur lequel il a écrit, et qu'il a lui-même pratiqué, la pantomime. Quel rapport, allez-vous me dire, avec la chiffonnerie? Eh bien, pour le comprendre, il faut se tourner vers les discussions savantes qui entourent à l'époque les origines de la commedia dell'arte, à laquelle la pantomime est étroitement liée à travers les personnages d'Arlequin et de Polichinelle. On s'interroge alors sur la filiation possible entre la commedia dell'arte et les atellanes, un genre théâtral, satirique, venu de la tribu des Osques et importé à Rome. Pour Charles Labitte, professeur au Collège de France, l'atellane est l'ancêtre de la commedia dell'arte. Se fondant sur une scolie de Martial, il voit dans le mime Paniculus, auquel il fait référence, qui est reconnaissable à sa batte et à son chapeau, l'ancêtre d'Arlequin. François Génin aborde la question de la dérivation d'Arlequin à partir de Paniculus, et il rappelle qu'on y a vu une allusion à l'habit d'Arlequin confectionné de petits morceaux de drap. Il conclut « conjecture plus ingénieuse que solide ». Pour Maurice Meyer, la filiation d'Arlequin partirait non pas de Paniculus, mais de Panuceati, qui est le titre d'une pièce qui nous est parvenue sous une forme fragmentaire et qui repose sur le travestissement. Le nom Panuceati venant, comme Paniculus, de Panus, qui a le sens de guenille, haillons, hein, mais aussi compresse, lambeau, morceau d'étoffe. Et je voudrais ajouter que chiffon, guenille, haillon, loque se disent en allemand lumpen. Arlequin, l'un des personnages clés de la pantomime, hein, vêtu de briques et de brocs, ne serait qu'une créature de chiffon. Et tous ceux qui ont approché la réalité de la scène pantomimique, comme Champfleury, ne peuvent évidemment l'ignorer. Voyez cet arlequin de Traviès, hein, dans une gravure de 1832, que le dessinateur nous montre crotté, le même Traviès qui illustrera le texte sur les chiffonniers dans Les Français peints par eux-mêmes, mais vous l'avez déjà vu. Alors qu'il y ait plus d'un rapport entre chiffonnerie et collectionnisme, entre collecte et collection, plusieurs indices nous en assurent. Dans la littérature de l'époque, les descriptions de collectionneurs en appellent aux mêmes figures, non seulement celle du cueilleur, de celui qui cueille, qui récolte, mais aussi celle du chasseur, du pêcheur. Larousse consacre deux longs articles à la collection et aux collectionneurs. Il fait état d'un véritable engouement du siècle pour le fait de collectionner. Il parle de collectionnomanie et de bric-à-bracomanie. Il se plaît à souligner aussi la bizarrerie des goûts des collectionneurs. Mais Balzac signalait déjà la prédilection de tels rentiers collectionneurs pour les affiches. À la fin du siècle, on parlera d'affichomanie. Le XIXe siècle, qui est le grand siècle des sommes, des totalisations, des recueils, est aussi une période faste pour les collectionneurs. On voit affluer sur le marché des biens d'origine nobiliaire ou ecclésiastique qui ont été dispersés après les secousses de la Révolution. Avec l'ascension et l'essor de la bourgeoisie, le nombre et le volume des ventes s'accroissent à tel point entre 1840 et 1850 que l'on est obligé de leur trouver un lieu plus vaste. Ce sera l'hôtel Drouot qui ouvre ses portes en 1854. De la seconde moitié du siècle date, c'est important pour l'histoire des collections, les premiers travaux historiques sur la collection, les collectionneurs et ce que l'on appelle plus généralement le collectionnisme. Ce sont les travaux de Louis Clément de Ris, d'Edmond Bonafé, de Paul Eudel, qui préfacera les trois catalogues de vente des collections de Champfleury. Mais je reviens à notre thème, le rapport le plus direct entre chiffonnerie et collectionnisme, eh bien, c'est Champfleury qui l'établit. Champfleury, en effet, s'intéresse à tout ce que méprisent les gens de goût. Les caricatures, les faïences à destination des campagnes et des faubourgs, et notamment les faïences révolutionnaires, l'imagerie populaire. Et cette dilection pour de tels objets explique le traitement méprisant auquel va être exposé dans le journal des Goncourt l'entrée du 16 décembre 1860, qui est un chef-d'œuvre de rosserie littéraire, lorsque les Goncourt apprennent que Champfleury, qui leur rend visite, a plus de 600 assiettes révolutionnaires, il manque s'étrangler. Et il conclut, c'était bien là le mot de la fin, il ne voit en lui qu'un tâcheron, un laborieux, sans génie et au goût complètement dépravé. Face, en effet, à des collectionneurs distingués, légitimes, comme les Goncourt, comme Lacaze, qui réunit une grande collection autour de 1860, de maîtres du XVIIIe siècle, Champfleury fait figure d'illégitime. Et même Baudelaire expédie ce sujet d'une formule assassine, assiette à coque, gravure au clou. Bref, Champfleury ramasse ce dont ne veulent pas les autres. Or, en valorisant un art sans art, Champfleury ne fait pas que défendre un point de vue esthétique. Il se définit comme historien, comme archéologue. Le mot revient très souvent dans ses écrits, et il rêve d'un musée. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il imagine quelque chose comme un musée des arts et traditions populaires, lequel, celui que nous connaissons, ne sera fondé qu'en 1937. Alors, il faut dire que ce siècle de collectionneurs est fasciné par le précédent qu'a constitué l'achat par l'État, en 1843, des collections de Dusommerard, ces meubles et objets du Moyen-Âge auxquels personne ne s'intéressait et qui ont permis de fonder le musée de Cluny. Dusommerard, soit dit en passant, qui est nommé élogieusement dans le roman d'un autre écrivain collectionneur, Le Cousin Ponce. Ce musée, Champfleury le veut non tant de manière narcissique pour abriter ses propres collections que pour sauver les témoins d'une culture et les faire connaître. Et pour ce qui est de ses propres collections, il fait preuve du même libéralisme, finalement, qu'Edmond Goncourt. Ce qui a été extrait du marché doit revenir sur le marché. Leurs collections finissent donc à Drouot. Alors, plusieurs contes et romans de Champfleury nous mettent sur la voie de la collusion entre collectionnisme et chiffonnerie, mais là, je vais résumer à grands traits parce que je vois que l'heure passe et je voudrais laisser encore un peu d'espace à l'écrivain chiffonnier. Alors, je m'appuierai sur un passage des aventures de Mademoiselle Mariette où l'un des personnages rapporte une trouvaille comme Champfleury, sans doute, en a fait beaucoup. Le personnage raconte comment, passant dans la rue, il voit la moitié d'un saladier paysan avec des motifs chinois. Il le ramasse, mais il est très malheureux parce qu'il n'a que la moitié. Arrive un chiffonnier qui remue le tas et qui trouve l'autre moitié et qui consent à se séparer de ce bris à très vil prix. Mais c'est surtout le violon de faïence qui devrait nous retenir, qui est un peu le cousin Ponce de Champfleury, le violon de faïence publié en 1862, qui est donc un roman du collectionneur. Le héros en est un modeste employé, Gardilane, dont l'obsession est un certain violon de faïence, comme celui qu'a représenté pour l'édition illustrée Jules Adeline. Et le roman nous montre Gardilane à la recherche de cet objet, deux séquences l'amenant dans des boutiques de chiffonniers. Alors, la première n'est pas présente au rendez-vous, ce qui m'arrange dans mon décompte horaire. La seconde sera tout à fait décisive, puisque c'est dans une humble armoire paysanne en vente chez un fripier, qu'il trouvera le fameux violon. Là encore, la citation a disparu. Alors, vous l'avez compris, là où le recyclage par le chiffonnier obéit à des finalités économiques, la seule rédemption que le collectionneur peut apporter aux objets de sa prédilection, lorsqu'il va les chercher chez des chiffonniers ou des fripiers, cette rédemption donc, est d'ordre tout à la fois historiographique et esthétique. Une caricature qui est due à Félix Nadar et à Édouard Rioux croque Champfleury en chiffonnier. Il y a tout, là, la hotte, le croc, le tas d'assiettes. Et une autre, qui est signée par André Gilles, le présente prenant un bain de pied dans le vase du réalisme. Soyons précis, le vase de nuit. Soyons plus précis, un pot de chambre. Et au mur du fond sont accrochées des assiettes où sont inscrits les titres des œuvres de Champfleury. Alors, avec le chiffonnier, l'écrivain Champfleury a plusieurs pratiques en partage. D'abord, celle qui est assez répandue à partir de la monarchie de Juillet et de l'essor de la presse, qui consiste à faire du neuf avec de l'ancien, à faire passer les textes publiés dans les journaux et revues, dans des livres, puis d'un livre à l'autre. Le simple examen de la bibliographie établie par Maurice Couard en 1891 pour la vente des autographes de Champfleury est tout à fait édifiant. Mais je rapporterai ici un propos de Gilles Bonnet, qui est l'un des tout premiers à s'être occupé de Champfleury, il y a une vingtaine d'années, et sur le site qu'il a créé, il note que, je le cite, « Champfleury lui-même a recyclé inlassablement, nombre de ses textes, réédités sous des titres différents, ou a recomposé inlassablement des recueils de contes à géométrie variable. » Pour l'écrivain réaliste, mais réaliste au sens où aujourd'hui nous disons de quelqu'un qu'il est pragmatique, rien ne se perd. Mais la marque distinctive de l'écrivain réaliste, alors au sens littéraire et esthétique du XIXe siècle, c'est qu'il recycle dans ses écrits le produit de ses observations. Et en cela, il est un peu semblable, le parallèle va vous paraître étrange, au romancier mondain décrit par Proust, hein, qui circule silencieusement dans les salons, le monocle vissé à l'œil, semblant proclamer partout « j'observe ». Champfleury n'aura jamais trahi le programme esthétique de ses textes manifestes des années 1850, la lettre à Georges Sand et l'article sur Robert Schall notamment. Alors, je ne rapporterai pas, parce que je n'en ai plus le temps, l'opinion de Sainte-Beuve, qui le décrit, non sans quelques dédains, comme un studieux observateur et un copiste consciencieux des personnages et des situations naturelles, ou l'opinion beaucoup plus favorable de Jules Trouba dans sa préface à Champfleury et Sainte-Beuve, pour qui Champfleury, romancier né malin, est doué d'un esprit fin et délicat et d'une observation pénétrante. Bien des passages de ses fictions, et nous en avons vu quelques exemples, pourraient être lus comme des petits faits, comme des choses vues, qu'il a accrochées ou crochetées pour les mettre dans sa hotte de romancier. L'une des grandes différences, et je conclurai là, avec Baudelaire, j'ai pétri de la boue et j'en ai fait de l'or, c'est que chez l'auteur du Spleen de Paris, si l'ordure du moderne est convertie en or, hein, cet or est celui de la forme. Proust, dans des pages magnifiques du Contre Sainte-Beuve, parle à propos de Baudelaire de ses formes inouïes, j'emprunte toutes ces expressions à Proust, de ces formes d'une planète où lui seul a habité, de ces belles formes sombres, éclatantes, nourrissantes, de ces belles formes d'art qui posent leurs grandes formes chaleureuses et colorées sur les faits qu'il énonce. Et Proust les compare même, de manière vraiment étrange, à des sacs qui pourraient contenir une bouteille ou un jambon. Eh bien, pour conclure, et pour être généreux, je dirais que Champfleury n'eut Dieu que pour la bouteille et le jambon.
Merci de cette présentation de Champfleury, qui est en effet au centre de beaucoup de ses préoccupations. Alors moi, j'ai été sensible à plusieurs thèmes que vous avez introduits, notamment l'un que je n'ai pas encore du tout abordé, qui est celui du rapport du chiffonnier et du collectionneur. On n'en a pas encore parlé. il est évidemment très important et là aussi très ancien. Peut-être que tout de même, j'ai mentionné, je ne m'en souviens plus maintenant, dans l'un des cours précédents, le chiffonnier littérateur d'Étienne de Jouy, qui est un collectionneur, qui collectionne les textes et qui recompose à partir de sa collection. Donc le thème du chiffonnier collectionneur est présent dès Étienne de Jouy. Il y a une grande proximité. Alors évidemment, quand je disais dans le cours de tout à l'heure, il n'y a pas de chiffonnier chez Balzac, bien entendu, il y a un collectionneur. Il y a le collectionneur. Mais justement, le collectionneur, c'est un... Il n'y a pas de chiffonnier collectionneur comme on peut le trouver chez Chanfleury. Le collectionneur est bourgeois ou petit bourgeois.
Si vous permettez une précision.
Il faut pousser sur le bouton, oui.
À ce propos, c'est qu'il nous est dit dans les premières pages du Cousin Ponce que le Cousin Ponce a trouvé. Alors, il n'est pas précisé où, mais on imagine chez un petit brocanteur, oui. Un éventail. Dont le dessin serait dû à Watteau. Mais Watteau, oui. Au moment de l'action du roman, sous la Restauration, n'est pas prisé. Et du reste, la cousine à laquelle il va offrir cet éventail va le dédaigner.
Oui. Donc il y a évidemment ce grand rapport. Et alors, dans La Mascarade, le roman de Chanfleury, il y a ce personnage de Topino qui collectionne les affiches. Alors là aussi, ça nous renvoie au... Parce que l'affiche, c'était une grande ressource du chiffonnier. C'était du papier qu'on pouvait faire entrer dans le recyclage. Donc le fait de collectionner des affiches, c'est les divertir. Divertir une matière première de valeur par rapport à ce cycle industriel. Et donc, c'est évidemment très intéressant, parce que l'affiche, je crois que j'ai évoqué ça dans un cours, suivant les ordonnances de police, il était interdit aux chiffonniers d'arracher les affiches. Bien évidemment, les chiffonniers arrachaient aussitôt les affiches au-dessus des bornes. Mercier nous dit « heureusement », parce que sinon les murs auraient doublé d'épaisseur. Heureusement que les chiffonniers étaient là pour arracher les affiches. Et l'espèce de perversion, là, consiste à avoir un chiffonnier collectionneur d'affiches et en faisant une sorte de musée pédagogique.
Oui, alors, une précision, dans le logis de Topino, l'affiche a une double fonction, parce que plusieurs affiches collées ensemble vont former les cloisons dans ce logis qui ne se présente comme une seule pièce. Mais des cloisons, donc, figurées, imagées, qui vont faire musée, hein, un musée iconographique, que Topino fait visiter aux enfants du voisinage.
Alors évidemment, l'autre chose que vous avez pointée qui est intéressante, c'est ce rapport entre chiffon et pantomime. Là aussi, c'est une chose importante. Je crois que je le signalais dans l'un des cours. Finalement, la principale représentation que nous avons au XXe siècle du chiffonnier, c'est les enfants du paradis, avec une représentation faussée, puisque Géricault est vraiment un marchand d'habits, mais c'est comme ça qu'on se représente le chiffonnier au XXe siècle, à travers la pantomime de Jean-Louis Barrault dans Les enfants du paradis. Je crois que c'est la représentation la plus courante de ce qu'est la chiffonnerie pour nous aujourd'hui. Enfin, ceux qui ont vu Les enfants du paradis, mais je crois que ça reste un film important dans la culture. Puis bien sûr, il y a tout le reste, c'est-à-dire que, en effet, Chanfleury est bien l'un de ceux qui sont le plus nettement au carrefour. Vous avez donné cette représentation, la caricature de Nadar et Riou, de Chanfleury en chiffonnier. Bon, je la commenterai dans un cours ultérieur, je ne sais plus lequel. Elle est très très intéressante parce qu'elle est accompagnée d'un long texte de Nadar, qui est un portrait de Chanfleury. où il le décrit comme chiffonnier de Balzac. Il est allé, après la mort de Balzac, récupérer les guenilles de Balzac. Et en particulier, ce qu'il a récupéré, c'est les chaussures de Balzac, les savates de Balzac. Mais comme elles sont trop grandes pour lui, il marche en trébuchant. Comme le chiffonnier qui trébuche, toujours. Hein, la caractéristique du chiffonnier, c'est de trébucher. Chanfleury peut trébucher comme le chiffonnier parce qu'il a des chaussures trop grandes. Hein, celles du grand artiste qui était Balzac. Et donc, il faut ajouter que c'est ce que Nadar disait d'un ami. Hein. Quand on a des amis comme ceux-là, on n'a pas tellement besoin d'ennemis. Hein. C'est la même chose que les rapports de Balzac, de Baudelaire et de Nadar. Hein. Le dessin de Baudelaire par Nadar qui ressemble en fait au dessin de Chanfleury par Nadar et Rioux. La même représentation, caricature très ambiguë.
Le monde littéraire et artistique n'était pas tendre. Hein. J'ai fait allusion au passage du journal des Goncourt,
oui,
qui rendent compte de leur visite, mais cette haine contre Chanfleury se retrouve dans les dernières années, au moment où les collections sont vendues. Ce ne sont que sarcasmes chez Edmond Goncourt. Ouais.
Mais reste très intéressant qu'il ait eu cette curiosité très précoce pour beaucoup de ces objets d'une certaine culture qui n'était pas considérée.
Absolument.
À ce moment-là.
Donc, ouais. Dans le petit livre que je lui ai consacré, je vois dans Chanfleury un pionnier de ces arts marginaux qui ne vont véritablement accéder à la reconnaissance publique qu'au début du XXe siècle, l'art des aliénés, l'art des enfants, l'art du peuple, l'art naïf. Il n'y a que l'art primitif qu'il n'aura pas repéré, encore qu'il y fasse allusion, hein, l'art africain, etc.
Et puis alors, il y a cette dimension de concurrence entre chiffonnier, collectionneur, celui qui fréquente la salle de vente. Chiffonnier n'a pas accès à la salle de vente. Il est dans la rue. Il y a concurrence entre la rue et la salle des ventes. Il récupère les objets qui ne se vendent pas à la salle des ventes. Ça touche aussi à cette question que j'évoquais tout à l'heure qui me tracasse. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le cours. À Londres, on vendait les ordures, on vendait les déchets. Le marchand allait dans les maisons les acheter. À Paris, il y a encore cette sorte de vieille générosité d'ancien régime qui consiste à laisser les objets dans la rue. Merci. Je suis désolé de ce qui est arrivé pour vos images, hein, qui ont toutes été. Je ne sais pas si vous avez.
Mais j'aurai une explication avec Alexandre de Vitry dans un moment.
Vous avez fait un essai.
Je dois connaître la réponse.
Vous n'aviez pas fait d'essai ?
Non.